VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Bamako, 14h à Abuja. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, Nigeria, exactement 500 jours après leur enlèvement le 14 avril 2014 par des militants de la secte islamiste Boko Haram. Les familles des plus de 200 lycéennes kidnappées organisent aujourd'hui une marche et une veillée aux chandelles à Abuja, à la capitale. La plupart des captives n'ont jamais été retrouvées. Nigeria toujours, le cimentier Dangote a annoncé hier la signature d'un accord portant sur 3,8 milliards d'euros avec le groupe chinois de construction Sinoma International Engineering pour la construction d'usines dans 11 pays africains ainsi qu'au Népal. Lors de l'inauguration d'une usine en Zambie au mois d'août, Dangote avait affirmé que la production de ciment était un symbole du développement africain. La République démocratique du Congo a annoncé jeudi qu'elle prévoyait désormais un taux de croissance de 8,4% pour l'année 2015 contre 9,2% précédemment suite à la baisse des marchés financiers en Chine. La RDC, pays parmi les moins développés du monde, est le premier producteur mondial de cobalt et dispute à la Zambie la place de premier producteur africain de cuivre. L'extraction et la transformation de ces deux minerais, très abondants au Katanga dans le sud, et dont la Chine est un grand importateur, sont le moteur de la croissance économique nationale. Et puis RDC toujours, à l'issue de son séjour dans le pays, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Ton Perilio, a donné en fin de journée hier une conférence de presse à Kinshasa. Il a fait le tour des grands dossiers régionaux et parle de l'appui de Washington dans la quête de solutions. Les précisions d'Eddie Sango.
We've had a very constructive couple of days, including a very important introductory conversation with President Kabila, just concluded on a range of important issues related to the Great Lakes.
Nous avons bien sûr eu deux journées très productives, y compris une rencontre productive avec le président Kabila, avec lequel nous avons eu l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions relatives à la situation dans la région des Grands Lacs.
Le président Obama parlait longuement et de manière répétitive de la nécessité de respecter le constitutionnalisme et l'état de droit, sachant que ce sont bien sûr des éléments qui sont extrêmement importants pour n'importe quel pays. Et nous avons bien sûr un entretien très constructif avec le président Kabila sur la nécessité de respecter le calendrier électoral et je pense que nous aurons des échanges ultérieurs avec les autorités congolaises à ce sujet. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que les élections législatives et présidentielles dont l'organisation est prévue l'an prochain puissent effectivement avoir lieu. Et les gens ont été très sceptiques à l'égard de la démocratie congolaise par le passé, mais nous pensons qu'il y a bien sûr des raisons de pouvoir être un peu plus optimiste à l'avenir.
Voilà les propos de Tom Perriello, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza s'est adressé hier à la Nation, une analyse de son discours avec Anastase Karayanga, spécialiste de la communication politique et de gouvernance.
Le président Nkurunziza, il a une capacité absolument inouïe, inimaginable, d'amnésie, d'oubli. Il oublie toutes les promesses qu'il avait faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a une semaine. Des promesses de sécurité, de paix, de démocratie. Il oublie ses engagements, les serments qu'il a prêtés en 2005, en 2010. Il oublie que tout récemment, il y a eu des centaines de morts tués, assassinés par la police. Des milliers de personnes qui sont parties en exil. Tout ce bilan, il ne l'assume pas. Il ne veut pas rendre des comptes.
Anastase Karayanga, spécialiste de la communication politique et de la gouvernance. Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti du président déchu Blaise Compaoré, ne décolère pas après la décision de la Cour constitutionnelle interdisant à ses membres d'être candidats aux élections législatives d'octobre, d'où son appel hier à la désobéissance civile. Bagassi Koura.
Le CDP demande à ses militants d'entreprendre toute action entrant dans le cadre de la désobéissance civile, a déclaré lors d'une conférence de presse le vice-président du CDP, Ashi Tapsoba, la décision mardi du Conseil constitutionnel déclarant inéligible 42 partisans de Compaoré est anticonstitutionnelle, a affirmé M. Tapsoba, sans préciser le mode de manifestation prévu selon l'AFP. Si nos militants exclus des élections ne sont pas réintégrés, nous n'allons participer à aucune élection, a-t-il averti. les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Cependant, les partis de l'ex-majorité ont toujours la possibilité de remplacer ces personnalités inéligibles par de nouveaux candidats.
Au Mali, les mouvements de la plateforme, la coalition des groupes armés pro-Bamako, se retirent de la localité d'Anéfis, mais ils souhaitent que les forces internationales qui seront déployées aient à leur côté des soldats maliens. Pour sa part, le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, était en déplacement en Algérie pour parler du processus de paix. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La plateforme a décidé de se retirer d'Anéfis. Toutefois, elle estime nécessaire, pour des raisons de sécurité des populations, de voir les FAMA accompagner les forces internationales qui y seront déployées sans délai. En déplacement en Algérie, le chef de la MINUSMA a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de ces pays. Les discussions ont porté sur une nécessité de poursuivre les efforts afin de parvenir à la concrétisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tout cas, la question d'Anéfis a été examinée par le gouvernement lors de sa session du Conseil des ministres de ce mercredi. Choguel Koukala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Le président de la République a conseillé au gouvernement de garder la sérénité, d'être engagé et d'être déterminé.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le gouvernement a dénoncé l'attribution aux rebelles du poste de premier vice-président comme une, je les cite, « prime à la rébellion » dans une liste de 16 réserves sur l'accord de paix signé par le président Salva Kiir et consulté aujourd'hui par l'AFP. En signant hier, avec une réticence affichée, une paix imposée, comme il le dit, pour mettre fin à 20 mois de guerre aux civils, le président Salva Kiir avait indiqué rejeter certaines clauses de l'accord et remis un document de 12 pages au médiateur énumérant les points litigieux.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Europe, des dizaines de migrants ont été retrouvés morts aujourd'hui dans un camion en stationnement sur une autoroute de l'État de l'Est de l'Autriche, frontalier de la Hongrie, a annoncé la police. Le bilan est encore incertain, mais on parle de plusieurs dizaines de morts et il n'a pas été possible de savoir dans un premier temps comment les migrants ont trouvé la mort, ni depuis combien de temps. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque suicide de la voiture piégée qui a coûté la vie à deux généraux irakiens dans la province d'Al-Anbar, place forte de l'Irak, de l'État islamique en Irak. Et puis en Syrie, le groupe État islamique qui contrôle la ville antique de Palmyre depuis mai dernier continue sa campagne contre ce qu'il appelle les idoles. En juillet, les militants avaient détruit la fameuse statue du lion d'Athéna à l'entrée du musée de Palmyre et ils viennent de faire exploser il y a quelques jours le temple de Baal Shamin, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La réaction du chercheur spécialiste de la Syrie, Thomas Pierret.
Un choc, non, c'est beaucoup de tristesse, comme toujours, quand on détruit le patrimoine extrêmement riche d'un pays comme la Syrie. Ceci dit, je pense que ça doit aussi laisser place à une analyse un peu froide de la situation, qui est qu'on est dans une stratégie qui est vraiment purement médiatique de la part de l'État islamique, qui est là simplement la continuation de ces mises en scène macabres, hein, d'exécutions diverses par le feu, par la noyade, etc. On est dans une surenchère où l'État islamique sent bien que ça fait un petit temps maintenant qu'ils ont pratiqué les vidéos d'exécution, que il y a une lassitude, donc il faut faire de la surenchère. Et ils savent évidemment qu'une chose qui provoque énormément d'émotions en Occident, bien sûr, c'est le patrimoine, ce qui est aussi un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que les destructions de patrimoine vont choquer plus que la tragédie humaine, que les pertes humaines qui se multiplient tous les jours en Syrie. Mais donc voilà, je pense que l'État islamique doit entretenir sa machine médiatique. Elle était un petit peu au ralenti et donc on la relance avec une destruction de patrimoine qui va avoir un écho important en Occident.
Comment vous expliquez ce besoin de stratégie médiatique, comme vous dites, de la part du groupe État islamique ?
C'est un groupe qui a une stratégie et des ambitions globales. Donc on le sait bien, évidemment, avec le recrutement de combattants étrangers, qui est une composante très importante des effectifs et du fonctionnement du mouvement. Également une stratégie d'expansion globale, et avec, on le sait bien, la création de branches dans le Sinaï, en Égypte, au Nigeria, avec Boko Haram.
Thomas Pierret, maître de conférence en islam contemporain à l'université d'Édimbourg et spécialiste de la Syrie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.